Ok. Bon, du coup, on va commencer la deuxième session. Mais avant de commencer, vu qu'on a fait le tour de table, mais il n'est pas la nouvelle arrivée, je vais juste te passer le micro comme ça, tu peux te présenter avec un prénom, ville d'où tu viens et pourquoi tu es là. Et puis ensuite, on recommencera.
Je m'appelle Marina, je viens de Paris. Je suis là parce que je suis la présidente d'une association qui s'appelle Carrefour des chrétiens inclusifs. C'est une association protestante qui travaille pour l'inclusion des personnes LGBT dans les églises. Bon, nous faisons du travail pour autonome, dans le sens qu'on crée d'un côté des lieux et des moments et des élaborations théologiques. On vient de publier deux bouquins, mais je ne sais pas là. Et de l'autre côté, on fait du lobbying pur et dur.
Je repasse. Donc du coup, quelques rappels de comment ça va fonctionner. On va établir le sujet, qui est le contexte, dans quel contexte nous situons nous. Après, on va faire un tour de parole. On passe le dictaphone à celui ou celle qui souhaite parler. On commence toujours par présenter le prénom, comme ça on peut nous repérer sur l'enregistrement pour la transcription. Je pense c'est un peu difficile à connaître les voix de 150 personnes différentes. Donc toi tu es d'accord pour noter comme la première fois? Parfait. Et toi tu prends les notes, nickel, bon, ça marche très bien. Et bon, bah... On va continuer, on va commencer. Qui souhaite parler? Donc on parle du... sinon on prend 2 minutes, on prend 3 minutes pour réfléchir et puis on commence. Ok. Je ne maîtrise pas ça. Donc en fait... Attends, il faut que je... Donc je vais commencer. Moi je vais commencer par vous parler un peu de le contexte géographique et culturel où on se trouve avec Alerte. C'est-à-dire on est dans le département de l'Aveyron qui est un département rural et on est confronté par plusieurs problématiques à la fois. C'est-à-dire la réalité, comme on sait bien, c'est l'éloignement d'espace, enfin, géographique des personnes. Donc on a quelques actions mises en place pour lutter contre l'isolement des personnes. On essaie de regrouper un maximum de monde. C'est un département un peu éloigné. On est sur le plateau du Massif Central. Il y a une ligne de train qui arrive chez nous. Donc les gens ils peuvent être assez méfiants. Quand on a créé l'asso, on s'imaginait à faire beaucoup de écoute et soutien. Sauf que personne ne nous connaissait, donc personne ne nous faisait confiance, donc on se retrouvait toute seule. Voilà. Et on se retrouve avec cette difficulté, comme j'avais évoqué lorsque la première séance, de militantisme face à la communauté qui ne veut pas être réparée forcément. Voilà, on se retrouve aussi dans un département un peu vieillissant, c'est-à-dire nous, au sein de notre asso, on a des personnes de tout âge, qui est génial. L'intergénérationnalité peut nous apporter beaucoup de choses, mais aussi il y a quand même des difficultés. Par exemple, on a eu quelqu'un d'un certain âge qui a évoqué qu'il n'aimait pas du tout quand on employait des mots avec racines anglo-saxonnes, parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il a plus que ce... Toi, tu comprends. Mais donc, en fait, il faut qu'on se sensibilise encore plus par rapport à ça, parce que pour être plus inclusif de chaque personne, il faut que chacun puisse comprendre ce qui se passe. Donc, nous, notre contexte, c'est un peu ça. C'est très agricole, traditionnel, familial. Bon, on a la Larzac juste à côté avec Osée Beauvais, donc on a un petit coin qui est censé être plus ouvert, plus progressif, mais on n'a pas de groupe local dans cet endroit-là. Donc ça c'est notre problématique, c'est comment couvrir un énorme terrain avec peu de militantes, avec pas assez de moyens et de financement pour se déplacer, quand on est tous aussi bénévoles mais qui travaillent à temps plein. Comment gérer le temps pour pouvoir être dispo? Est-ce qu'on pose des congés pour faire les interventions scolaires? Parce que sinon on ne peut pas le faire. Donc c'est toutes ces petites problématiques. Nous, notre contexte, c'est ça. C'est, bon, on reste positif parce qu'on a ouvert notre bureau, en fait. C'est-à-dire, on a commencé, on était trois au bureau. Bon, indécisément, on était deux. Puis on a été trois. Et là, on s'est dit, on fait un petit bureau, mais on fait un CA de 12 personnes. Et ça a permis à vachement plus de monde de s'impliquer un peu sans être repéré, entre guillemets, niveau local, mais participer pleinement à l'assaut, au sein de l'assaut. Voilà, donc nous, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Dans notre contexte, on a aussi les problématiques de, même si on est dans une ville, si les élus sont de majorité socialiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une droite militante qui commence à se monter. On a eu... on a la majorité toujours qui reste de plus alignée à nos valeurs, mais petit à petit, on ressent qu'on n'est plus la priorité. Voilà. Vous parlez ?
Donc Alexis, collectif éducation contre l'LGBT-phobie en milieu scolaire, c'est long. Notre contexte, donc comme on a un collectif qui regroupe des organisations au niveau national, on a d'abord, d'un point de vue géographique, en fait, on a un ancrage et on est un interlocuteur de, au niveau national, le ministère, des GESCO, défenseurs des droits, CSP, etc. Donc parfois... On vit des choses comme une caution, enfin étant une caution, c'est-à-dire qu'en étant interlocuteur, on signe des choses, ça leur permet de faire croire qu'ils avancent sur des dossiers et c'est pas forcément le cas. Donc on est reçu simplement quoi. C'est plus ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien qui est créé. C'est par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie, le fait que nos organisations nous poussent pour porter des revendications et nous suivent peu derrière, on n'arrive pas à faire, on a beaucoup de difficultés sur nos problématiques à faire un lien avec le local. Ce collectif n'a aucune... a très peu de remontées de cas de discrimination sur le terrain, a très peu de fait très peu d'enquêtes, il y a très peu de moyens d'action et de ressources issues du terrain. Donc ça c'est un peu le problème du contexte actuel. Et puis il y a toujours par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie, le fait que notre collectif existe depuis 12 ans et est arrivé en 2012 à vraiment une situation très optimiste avec plein de revendications qui commençaient à être prises. Donc on a une plateforme revendicative qui est toujours d'actualité qui était reprise quasiment entièrement dans le rapport Techney. Rien, ce qui a été demandé, commandé par le ministère, rien n'est mis en action, absolument rien. Et donc on a un sentiment d'usure, vraiment, on est en recherche d'un second souffle, quoi. Donc du coup, on travaille plus sur la création d'outils de visibilité pour que notre collectif soit vu. Peut-être que ça pourrait résoudre le problème de la présence au local. Si on était plus visible, ça sera dans la troisième partie sur ce qu'on peut avoir dans le futur pour cet après-midi. Le contexte géographique, c'est qu'on est plus acteurs au niveau national et que du coup, on a un lien avec les structures institutionnelles peu avec le territoire et avec les remontées des souffrances des établissements, dans les établissements enseignantes et élèves. Ce contexte chronologique d'usure et de... On recherche une seconde vie. Voilà. J'ai fait, donc...
Flora, pour commencer sur Paris...
Paris qui est un contexte aussi, enfin qui est Paris sur un contexte relativement local du coup de Paris, puisque nous on est Paris-Île-de-France. On a cette difficulté. Alors, on a une ressource qui est aussi parfois une difficulté, c'est qu'on a, c'est très urbain, Paris-Île-de-France. Il y a une proximité avec les lieux de décision qui peut parfois être assez pratique pour être informé de ce qui se passe et pour être consulté éventuellement. Et on a un réseau associatif qui est très dense. Et ça c'est plutôt une bonne chose, mais c'est aussi un réseau associatif qui est traversé par de nombreux conflits liés à des choses diverses et variées, souvent des questions de position, pas toujours. Et ça c'est un élément qui n'est pas une source de lisibilité, parce qu'il y a tellement d'initiatives dans tout le temps, partout, depuis un certain temps à Paris, enfin pas tout le temps partout, mais bon, mais il y a tellement de mouvements différents que les gens ont du mal parfois à voir qui fait quoi et un petit peu ce qui relève de chaque association ou ce que fait chaque association. Donc ça aide pas toujours des masses. On a l'avantage d'avoir un lieu et les gens visualisent le lieu. Ils ne savent pas toujours comment on s'appelle. On s'appelle la LGBT pour beaucoup de gens. Donc j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. En général, c'est pas le signe d'un esprit super au point quand ils appellent un peu tout la LGBT. Mais donc on est la LGBT pour beaucoup de gens, donc forcément. On est très contents, hein. Bon, c'est nous. Mais donc le centre, voilà, il voit le lieu, c'est déjà pas mal. Mais dans l'Île-de-France, donc nous on a une difficulté qui est que on est très connu à Paris, dans un réseau associatif. De manière assez large à Paris, parce qu'on a une assez bonne visibilité à Paris. Le problème, c'est le reste de l'Île-de-France. Parce que là, on a vraiment des situations qui peuvent être très 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 compliquées, on le sait. On a des gens qui viennent de l'Île-de-France et qui viennent au centre. On est assez centraux, donc c'est assez facile de nous trouver quand on vient du fin fond de l'Île-de-France, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas les ressources qui existent du tout, et que ce sont précisément eux qui ont le plus besoin de choses, et ce sont précisément avec ces mairies-là, avec ces lieux-là qu'on a le plus de mal à travailler, parce que il y a des tensions très fortes. Paris et l'Île-de-France, c'est une région, bien évidemment, avec la proximité des lieux de pouvoir, il y a bien évidemment une mobilisation très forte de tout le monde, et notamment la Manif pour tous, qui est très forte en Île-de-France et qui infiltre beaucoup Enfin, on voit en ce moment au niveau des régionales que c'est un enjeu, en tout cas à droite, qui a beaucoup mis de sens commun et de manif pour tous sur ses listes, etc. Et donc il y a à la fois beaucoup de ressources en Île-de-France et aussi une opposition assez forte. C'est aussi, voilà, il y a aussi eu les manifs sur Paris. Donc ça, c'est un contexte local qui peut être compliqué. Il y a la dépendance au financement public, ne serait-ce que pour payer le local, parce qu'on ne pourrait pas, parce que évidemment tout étant cher à Paris, on ne pourrait pas maintenir ce local sans les financements qu'on reçoit à l'heure actuelle. Et donc une certaine interrogation sur la pérennité toujours, mais bon voilà, le centre n'est pas particulièrement... Il y a d'autres associations qui sont beaucoup plus en interrogation sur ce genre de questions, mais ça, on les a aussi. Et puis au niveau des gens qui viennent, des bénévoles, souvent ce sont des gens qui s'investissent énormément et qui, parce qu'on ouvre 6 jours sur 7, qui participent à pas mal de choses. Et parfois, il y a évidemment un turnover, comme partout. Il y a aussi parfois une certaine usure. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a un certain, et ça c'est le cas un peu partout, il y a une démobilisation de certaines personnes sur puisque le mariage est passé, etc., qui n'aide pas toujours à mobiliser les gens. Donc voilà, donc ça c'est un paysage rapide de notre contexte à nous. Je ne sais pas si c'est trop abstrait ou pas assez. Est-ce que d'autres Parisiens pourraient rajouter des choses peut-être ?
Attends, je crois qu'il y avait plus.
Moi, je suis pas. Très bien aussi. Très bien aussi.
Que dire sur la Normandie, bah, c'est... Ah pardon, Géraldine, oui, Rouen, laisse bien ta gaieté. J'ai du mal. Du coup, oui, je vais reprendre un peu ce que tu as dit. Donc nous, on a plusieurs grosses villes, mais qui sont, mine de rien, assez espacées géographiquement. Il y a Le Havre, Rouen, pour la Haute-Normandie, et après derrière on a la basse, Cherbourg, Caen, Alençon. Ça fait des heures d'autoroute entre chaque. Et en même temps, on a la proximité de Paris, à 1h30 de Rouen, 2h de Caen, je crois. Entre toutes ces grosses villes, il y a beaucoup de champs, pas mal de clochers et des gens assez isolés qui vont, du coup, quand ils ont l'idée et la connaissance que des associations existent, se rattacher et demander des contacts, des activités aux assos qui se trouvent là. Du coup, qu'est-ce qui est structuré dans tout ce paysage-là? Il n'y a que Caen qui est structuré dans le centre avec 5 assos en son sein. Il y a Fabrice qui est sur un autre groupe d'ailleurs, qui est président du centre LGBT. Et au niveau de Rouen, il n'y a pas de local pour les assos qui sont là. On a quelques associations, donc il y a Lesbien ta Gaieté, il y a AIDS qui est présent, il y a Contact qui est en train de se créer, il y a Bisport, mais qui est très timide. Bisport protège ses adhérents des mouvements assos politiques, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas aux marches des fiertés, ils font du foot principalement et de la natation. Pour le paysage, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau des actions militantes, on va retrouver du coup ce que je disais tout à l'heure, les féministes, Gaieté, Lesbien ta Gaieté et AIDS qui nous soutient. Et il y a Energay qui arrive doucement, là, ils sont en train de monter leur antenne, et Contact qu'on a rejoint et qu'on soutient en tant qu'antenne, et qui est une antenne de Paris-Île-de-France. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces assos-là? On a signé des chartes les années précédentes, mais du coup, on n'est pas hyper structuré, on est vraiment en plein chantier. Voilà, c'est pour ça que ça reposait sur Lesbien ta Gaieté pour la marche de l'année dernière. Donc la difficulté, un peu comme vous en Aveyron, c'est de se faire connaître, d'arriver à répondre aux demandes qu'on a, d'arriver à continuer à intégrer les bénévoles et les forces vives qu'on a pour monter des actions qui vont avoir un impact et qui vont répondre à des besoins, et de se faire entendre des pouvoirs publics. Les années précédentes, du coup, c'est ça passer par la charte. Quel est le reste du paysage? Et ben, ça va être Rouen, c'est la ville aux 100 clochers, hein, donc avec l'impact en local que ça peut avoir. Il y a eu beaucoup de tracts effectivement de la manif pour tous, Sens commun est présent, le FN est passé au départemental, ils ont des sièges également dans la municipalité. Ils se sont bien fait entendre en juin en essayant de faire annuler la marche et de couper le peu de subventions qu'on avait pour la marche des fiertés. Pour autant, les élus, la majorité est encore PS. Mais on voit bien la montée des extrêmes, on l'a bien senti. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Donc qui va être présent pour faire des IMS? Contact qui débutera bientôt et Gaieté Normande. Voilà, pour le contexte géographique. Je rebondirai s'il y a d'autres.
Hélène, ACT UP, je fais aussi partie depuis une quinzaine d'années de l'existence, l'espèce d'association informelle qui s'occupe de la marche des trans avec... beaucoup de vicissitudes, bien sûr. Mon objectif premier, c'est que cette loi d'identité de genre que nous avait promis le PS, qu'il a retiré ensuite alors qu'on avait commencé les négociations parce qu'il avait tellement peur de la marche de la manif pour tous, à croire que c'est la manif pour tous qui gouverne en France. Je vais faire un peu de... Et puis bon, là c'est reparti. Une partie de mon énergie en ce moment, énergie, vous n'avez pas été là avant, mais j'en ai parlé, qui va être de trouver de la solidarité dans les associations chrétiennes, parce qu'il va falloir absolument que la hiérarchie catholique, je ne mélange pas avec l'Église, permettez-moi de ne pas mélanger avec l'Église réformée, que la hiérarchie catholique n'aille pas persécuter une des minorités françaises qui est le plus appuyée. Bon, moi, dans mes idées, la question trans, ce n'est pas tellement une question de genre. La question trans, c'est une question de discrimination, c'est la question d'une minorité qui a un des taux de sida les plus élevés des communautés françaises, qui a un des taux de chômage, qui a un des taux de non-université, etc. Moi, c'est la chose que je mets en avant. Maintenant, savoir qui est un homme, qui est une femme, je laisse les théologiens et les sociologues queer discutaient entre eux de la question. Ils ont l'air de connaître ça beaucoup mieux que nous. Non, je suis terriblement pragmatique. Donc, en ce moment, mon objectif premier, c'est que cette loi passe parce qu'elle va vraiment changer la vie de dizaines de milliers, de presque plus de personnes. Pour le sida, je vois qu'on recommence, les institutions, les associations institutionnelles recommencent à parler de préservatifs. Ça me fait très peur. Je ne suis pas du tout une opposante de la presse, de la PrEP. La PrEP, c'est un truc intéressant. Ça montre bien qu'il ne faut pas se mettre non plus dans... un truc fermé, les gays qui parlent aux gays et qui sont les seuls capables de parler aux gays, puisque la PrEP, ça a commencé chez les hétérosexuels. C'est-à-dire quand on s'est aperçu qu'une femme enceinte sous traitement ne passait plus le sida à son enfant. C'est à partir de cette réflexion-là que tout le mouvement de réflexion de l'immunité par les médicaments est né. Donc il ne faut pas trop isoler non plus les combats. Donc moi je ne suis absolument pas contre la PrEP, simplement la PrEP c'est fait pour les gays présophobes ou les hétéros présophobes, c'est-à-dire ceux qui ne supportent pas le port du préservatif. Autrement, le préservatif c'est moins cher, ça fait aussi la prévention des IST, de la syphilis, de la gonorrhée. Parce que quand vous prenez un traitement, vous attrapez la syphilis, votre traitement il vaut plus rien et vous redevenez à nouveau dans une zone de où vous pouvez attraper la maladie et vous pouvez contaminer les personnes. Moi personnellement, je trouve que moi, mon truc de discussion, c'est où on passe, où on ne passe pas la maladie. Ce n'est pas moral. Pour moi, c'est simplement... notre but, c'est de juguler l'épidémie. Je comprends très bien, pour une certaine raison, c'est que si j'ai attrapé cette maladie, c'est bien parce que je n'ai pas mis le préservatif un jour. Donc, je ne vais pas poursuivre à la hache une personne qui a du mal à mettre le préservatif. Simplement, je veux qu'on me laisse dire que c'est pas bien de passer, de contaminer quelqu'un d'autre sans me dire que je suis une moraliste, etc. Voilà, et puis la question c'est la solidarité. Vous ne le savez pas, mais la communauté trans a été une des communautés où on a le plus expulsé de gens. Moi, j'ai toujours le souvenir de « Ah, Rosa, qu'est-ce qu'elle devient ?»« Ah, ben, elle a été expulsée. Les machines, elle a été expulsée. Machines, elle a été expulsée. » J'ai le souvenir que les grandes arrivées de femmes trans à Paris, elles sont liées à l'avènement de dictature. C'est-à-dire l'arrivée des Brésiliennes à Paris a été concomitante avec la prise du pouvoir des fascistes au Brésil, qui ont évidemment fait vivre l'enfer aux personnes trans. J'ai le souvenir, pendant la guerre civile en Algérie, l'arrivée des trans et des garçons efféminés et des femmes qui n'étaient pas dans la norme en France. Les gens ne viennent pas par plaisir faire le travail sexuel dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue. Moi, j'ai eu une peur, maintenant ça a recommencé. C'est-à-dire que le mouvement du sida avait obtenu qu'on ne pouvait pas expulser une personne séropositive. Ça a recommencé. Là, je dois saluer Aide, puisque c'est Aide à Marseille qui s'est occupée de cas pareils, avec des translatinas séropos, sous prétexte que les médicaments existent dans leur pays, mais ils existent pour qui? Ils existent pour ceux qui ont de l'argent. On allait expulser des trans par là. Et évidemment, si ça se rigidifie encore plus, politiquement en France, ces personnes vont être les premières cibles et je me bats pour elles. Voilà. Et pour eux aussi, parce que j'ai un copain garçon trans-iranien qui travaille chez Aide. On a aussi des arrivées maintenant de garçons et d'hommes trans. On a Roman qui nous vient de Russie. Enfin, à partir du moment où on connaît 2-3, on sait que c'est 20 ou 40 qui existent.
Théo, Paris, Aide. Du coup, je profite effectivement de cette porte d'entrée sur le droit au séjour pour soins, parce que ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé depuis 2012 et ce qui peut un peu nous éclairer sur le contexte, c'est que les expulsions d'étrangers malades ont repris, plus que sous Sarkozy, et du coup, on voit qu'il y a un glissement des politiques de santé qui passe derrière les politiques migratoires, les politiques sécuritaires et ainsi de suite, et que la santé devient une sorte de sous-champ dominé en politique et dans un contexte de rigueur. Elle est plus ou moins abandonnée. Et j'en viens du coup plus spécifiquement aux questions LGBT. On voit aujourd'hui que les personnes LGBT, là je mélange un peu les deux ateliers, mais bon, c'est lié. Les personnes LGBT sont confrontées à des inégalités sociales de santé de différentes manières. Il y a des LGBT-phobies, il y a des les formations des soignants qui n'intègrent pas ces questions, la santé sexuelle des lesbiennes, des trans, c'est un impensé total. Il y a aussi un phénomène d'autocensure, parce que les brochures de prévention, à part pour le VIH, c'est globalement pour un public hétéro, et du coup il y a un certain nombre de personnes qui ne se sentent pas concernées, et c'est particulièrement problématique, là encore je reviens sur les femmes lesbiennes, qui ne se sentent pas concernées par un certain nombre de brochures liées à certains cancers. Donc il y a des besoins spécifiques en santé sexuelle pour les personnes LGBT. En matière de VIH, c'est un peu pareil. On a une évolution de la prévention et de ce qu'il faut faire avec le préservatif, le traitement comme prévention, le dépistage, la PrEP, et un besoin de faire en sorte que tous ces outils de prévention combinés puissent être appropriés selon les besoins et les pratiques des personnes, aussi bien par la communauté, avec aujourd'hui un discours qu'on entend de tuer clean, qui est une sorte d'aberration complètement sérophobe et de pseudo-sérotriage symbolique, mais aussi par les associations et du coup sur le contexte plus politique, par les autorités au niveau national, au niveau local. Donc on voit qu'aujourd'hui, et ça boucle avec un peu ce que je disais sur le début, il y a une vraie frilosité des milieux politiques à prendre en compte les spécificités de santé, à lutter contre ces inégalités sociales de santé, qu'elles soient liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, qu'elles soient même territoriales. Et avec un contexte économique de rigueur, c'est encore plus difficile. Et voilà, à peu près ma démonstration. Sinon, je vais finir quand même rapidement. Il y a deux choses aussi qui concernent très directement nos communautés, qui sont pensées dans nos communautés, mais pas du tout prises en compte par les politiques, où il y a un impensé total. C'est le vieillissement des personnes LGBT vivant avec le VIH, où il va quand même y avoir urgence à faire quelque chose. et l'usage de drogue chez les gays qui pose de vrais problèmes de santé aujourd'hui, qui est pas du tout pris en compte parce que déjà les gays même se reconnaissent pas comme usagers de drogue. Les autorités, enfin les politiques institutionnelles ont du mal à les classer, voire à les voir. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir avancer. Donc il faut réussir à remobiliser les politiques sur les questions LGBT et aussi à leur faire prendre conscience qu'il y a plein d'enjeux qu'ils ne voient pas. Voilà.
J'ai chaud, j'ai froid. Henriette de Idem, Marseille. Par rapport au contexte, à Marseille, la question qu'on se pose, à Idem qu'on se pose par exemple, c'est pourquoi à Marseille on n'arrive pas à construire un centre gay lesbien. Il y a donc beaucoup d'associations sur Marseille, toutes les associations dont vous êtes sont représentées sur Marseille, on va dire. On arrive donc à travailler ensemble, notamment par exemple par rapport à la Pride, puisque la Pride à Marseille est portée par les associations. Enfin, il y a un comité de pilotage et c'est les associations qui décident du parcours, du mot d'ordre, enfin, etc. Donc c'est important, alors que par le passé, c'était plus les commerçants qui dirigeaient la question. Donc là, on a repris les choses en main, on va dire. Et on y tient, on est soudés, mais de là à créer un centre LGBT, il y a un pas. Par contre, il y a quelque chose aussi qui nous unit, on va dire, qui nous permet de réagir assez rapidement et puis de partager aussi nos initiatives. C'est une espèce de réseau LGBT PACA. Il y a un site qui fait que toutes les associations sont répertoriées, toutes leurs initiatives sont répertoriées. Du coup, ça crée aussi du lien et on est aussi plus réactif quand il y a un problème. Parce que, donc, par exemple, dernièrement, il y a deux garçons qui se sont fait massacrer, on peut dire ça, en sortant d'une boîte à Marseille qui s'appelle le Cancan. Donc on a très vite réagi, on a fait donc une manifestation, mais après la question c'est dans ce qui se disait déjà un petit peu tout à l'heure. On a aussi ce problème à Idem, c'est que on rassemble effectivement, Idem rassemble des associations, mais en fait ce qu'on fait, l'organisation de la Pride par exemple, ça repose trop souvent sur un petit nombre. Parce que les associations qui sont membres d'Idem comme Aide, comme MUS, comme Planning, etc. Ils sont occupés à leurs propres actions. Et donc, à partir de là, c'est plus difficile. Et les personnes qui arrivent à se dégager, qui sont dans Idem, c'est des personnes qui ne sont pas dans d'autres associations. Donc, ils sont uniquement à Idem. Et là, c'est compliqué.
Antonin de la Fédération LGBT, donc nationale. Nous, ce qu'on constate au travers des différentes villes avec lesquelles on peut avoir donc, soit adhérente, soit du lien, c'est que par rapport à avant les débuts des débats sur le mariage, il y a de plus en plus d'associations qui se créent, qui animent des territoires qui n'avaient jamais rien vu avant. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Et y compris des initiatives des fois lancées par des personnes non LGBT. Donc il y a eu sans doute quand même une prise de conscience vraiment forte du public qu'il y avait un besoin. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une disparité des territoires qui est assez affolante. Notamment ce qu'on voit, c'est qu'il y a des villes où il y a eu depuis passage du mariage une baisse complète de la fréquentation et de l'engagement. Et nous on a par exemple, on a le contre-exemple à Rennes, où ça a été l'inverse, on a de plus en plus de personnes qui se sont investies, alors différemment d'avant, mais on a quand même de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont dit bah voilà, après ça c'est plus possible de rester sans rien faire, et du coup qui rejoignent l'association. Donc je sais pas comment on l'explique, hein, mais il y a des villes où ça a vraiment plongé et nous ça a grossi. Les associations du coup vivent des temps qui ne sont pas du tout synchrones, c'est-à-dire que certaines sont dans des cycles où c'est dur, c'est de plus en plus dur et elles ont du mal à rassembler, d'autres sont en pleine expansion. C'est lié aussi beaucoup au contexte politique local qui est complètement différent d'une ville à l'autre, quelle que soit la majorité, c'est-à-dire que des majorités de droite vont des fois soutenir excellemment bien des associations avec une qualité de dialogue vraiment appréciable. Et on a des villes avec une majorité de gauche où ça se passe hyper, hyper, hyper mal. Je peux prendre l'exemple de Rennes, où on a maintenant une très bonne écoute, mais on a pendant longtemps été le parent pauvre, le petit enfant pauvre de la Fédération LGBT, puisqu'on avait une subvention de fonctionnement de 1082 euros qui ne payait pas entièrement le loyer qu'on versait à la ville chaque année. Donc la ville gagnait de l'argent sur le fonctionnement de notre association, ce qui n'était pas vraiment acceptable. Donc on a bataillé et finalement, en fait, en montrant les crocs et en lâchant pas le morceau, on a maintenant une écoute qui est vraiment, vraiment bonne de la part de la mairie. Donc on n'a pas des sommes folles non plus de financement, enfin loin de là, mais ça reste possible quand même quand on s'impose, on se rend compte qu'on est bien, bien, bien écouté qu'en attendant que ça tombe. Donc voilà. Et finalement, on a gardé une indépendance même, je dirais, plus confortable qu'avant, puisqu'on peut se permettre de critiquer à bâton rompu ce qui se passe dans la ville, et au contraire, on est écouté. Donc il y a des questions de personnes sans doute aussi. Le tissu associatif aussi dans lequel les associations LGBT s'inscrivent fait que c'est très différent. À nouveau, à Rennes, on a un réseau associatif général qui est extrêmement dense, qui est ancien, qui est structuré et qui aime travailler ensemble. Donc on a des facilités à faire des partenariats, alors qu'il y a des villes où c'est des guerres permanentes, où des grandes associations nationales généralistes vont pas du tout s'entendre, où il y a des bisbilles sur le terrain de la santé, donc du coup ça fait des financements qui sont ratés parce qu'il n'y a pas de projet commun, mais il y a deux projets qui sont déposés à l'ARS par exemple, donc personne n'est financé. Voilà, ça existe. Ça joue quand même aussi beaucoup. On peut pas plaquer un modèle qui fonctionne partout, déjà parce qu'au niveau associatif, c'est la jungle à certains endroits. Donc les relations avec les collectivités, j'en ai parlé. On voit aussi que assez naturellement, quand même, il y a pas mal d'associations LGBT, LGBTI, LGBTIQ qui vont se spécialiser ou maîtriser un peu mieux certains domaines techniques. Je pense à la santé, la question trans, la question bi, l'accueil des migrants, il y a plein de choses comme ça où tous les assos ne peuvent pas en fait cumuler toutes les casquettes, donc d'où l'intérêt, ce qu'on voit du coup à la fédération, de se poser en réseau, et que c'est ce qui nous permet, nous, en tout cas, de progresser sur des domaines assez complexes, que s'il n'y a pas d'échange d'idées, les assos vont rester dans statu quo sans connaître une problématique. Donc il y a vraiment des besoins de formation par les pairs et d'échange d'initiatives, que quand on fait une plaquette, quand on fabrique un support, quelque chose, de le transmettre, de le faire tourner, parce que les autres assos n'ont ni le temps ni les compétences pour le faire, donc il faut partager. Et on voit du coup que cette mise en commun de savoir-faire et de moyens, elle fonctionne aussi bien au niveau local quand on fait des partenariats avec des assos non LGBT ou LGBT, mais aussi au niveau national, puisqu'on arrive quand même à faire tourner des choses, avec toujours la difficulté qu'on a un pays quand même centralisé. Donc pour la fédération LGBT, concrètement, c'est impossible avec les moyens mais dérisoires dont on dispose, vraiment dérisoires, parce que nos assos ont déjà besoin de toute leur trésorerie, donc ne peuvent pas alimenter la fédération par des dons conséquents, et on n'a pas de financement externe. Donc on tourne avec 4 trombones et 2 post-it. Enfin, c'est presque ça. C'est-à-dire que là, par exemple, les déplacements de quasiment tout le monde, enfin des 6 personnes de la Fédération LGBT, pris en charge par leurs associations d'origine. Parce qu'il n'y a pas de moyen de prendre en charge par la Fédération. Donc ça, du coup, le puissant lobby LGBT, voilà, c'est vraiment en question, il n'y en a pas du tout. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué. Ça fait aussi que quand on a besoin de se faire représenter et d'être écouté, et qu'on nous dit, voilà, ben, il y a une interview dans une heure sur le plateau de BFM TV, bah oui, mais moi j'habite à Angers, moi j'habite à Lyon, c'est pas possible, il n'y a pas de métro pour y aller. Donc tout ça, c'est des occasions ratées, et porter la parole du coup de ce qui peut se passer ailleurs qu'à Paris, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué d'être reconnu, d'être écouté, et enfin, pas de moyens, pas de salariés, pas de local à Paris, pas de... Voilà. C'est un cercle vicieux, quoi, du coup. Donc contexte ouais, compliqué. Compliqué avec des villes où ça marche vraiment bien et des villes où là clairement c'est un tournant. Quoi. Depuis 2012, c'est dur, dur, dur.
Alors Marine, bon, je vais faire un tout petit historique, j'imagine que c'était le premier groupe. Donc l'association existe depuis 13-14 ans. Elle a commencé de façon complètement anarchique, dans le sens où c'était un rendez-vous annuel et les gens sont arrivés. Au début, c'était des individus, des groupes. Bon, on a un peu tourné de toute façon. Nos contextes sont ensemble géographiques, dans le sens qu'aujourd'hui, on est en train de nous structurer en termes francophones, c'est-à-dire la France, la Belgique et la Suisse francophone. Mais notre contexte est avant tout un contexte institutionnel. Ce sont des chrétiens qui appartiennent à des églises et ces églises sont sur des différents territoires. Ce sont des églises nationales, des différentes tendances. Et on est donc entre ces deux choses. Notre, comme tous les gens qui travaillent avec des institutions, la question c'est comment peser sans se faire imposer ni un calendrier, ni des thématiques. Donc la question c'est en même temps d'arriver à faire changer des politiques, mais sans que cela soit en imposant nos thèmes et pas se les faire imposer. C'est un peu donc un travail qui est un travail d'empowerment. Je vais utiliser un terme anglo-saxon. Je ne sais pas s'il est dedans, mais bon, c'est un travail pour faire qui permet aux gens d'augmenter leurs compétences, leurs connaissances et donc d'augmenter l'autonomie des individus et des groupes. Et en ce sens, pour nous, c'est un travail qui est avant tout un travail d'organisation, mais un travail aussi de construction d'argumentaires qui est théologique, qui est ecclésiologique, etc. etc. Après, on est en France, donc au début, c'est une association qui est de matrice protestante, mais les protestants en France, c'est 2% de la population. Donc en gros, on a été tout de suite rejoint par des catholiques. En France, il y a une très grosse association catholique, et c'est David et Jonathan, donc bon, même si... Et donc, c'est eux qui font le travail principalement avec cette église. Mais bon, on fait ce qu'on peut, ce n'est pas évident. Il y a des choses qui ont bougé, donc éventuellement, bon, on parlera un peu à côté, on va voir si on peut essayer d'organiser quelque chose. Donc, je vous disais qu'actuellement, on est en train de se structurer. C'est une structuration qui naît d'un mûrissement de l'association. On essaye de mettre ensemble des individus, des groupes et des paroisses. Ce n'est pas du tout évident parce que chacun a ses logiques d'organisation. Sur un territoire, sur trois pays, ça prend beaucoup de temps à essayer de mettre ensemble les statuts et tout ça. On n'est pas du tout dans une logique de... Alors on n'a jamais voulu avoir de lieu parce qu'on préfère occuper les lieux des autres. Et donc on n'a pas de siège, mais on va dans des paroisses et on prend des espaces là où nous sont donnés. Et en effet, on fonctionne avec les ressources des paroisses, qui ce sont des lieux, des personnes, des militants. On n'a évidemment pas de permanents pour le moment. On est dans une logique de professionnalisation, dans le sens qu'on s'appuie sur deux structures. Une, c'est le Forum européen des groupes chrétiens LGBT, et l'autre, c'est une grosse association américaine qui travaille aussi sur les questions chrétiennes LGBT et avec lesquelles on commence à prendre des contacts. Et après les subventions, on n'a pas de subventions. En France, c'est pas du tout facile pour des associations confessionnelles d'avoir des subventions publiques, vous pouvez imaginer. Et d'ailleurs, bon, je dois dire qu'on n'a pas beaucoup essayé et on ne souhaite pas avoir des subventions des églises, mais éventuellement d'organiser des projets communs.
Rapidement, est-ce que tout le monde comprend le terme empowerment? Ouais. Parce qu'en fait, ça a été cité sur la page.
Oui.
Bon, pour moi, c'est 17, mais c'est pas très bien.
plus-value, c'est ça, c'est plus-value, enfin quelque chose qui va dans le sens de développer.
Power, c'est quoi? Power,
c'est oui, d'accord. Donc
c'est donner une capacité à quelqu'un, oui, voilà. Soit par même les simples mots encourageants, même, mais aussi les ressources, les moyens physiques.
Oui, la formation,
tout l'ensemble des compétences des gens.
C'est ça. De donner quelqu'un le pouvoir de faire pour soi-même.
Oui.
Donc c'est super beau quoi, comme concept, mais on n'a pas trouvé un mot
exact en français. Ouais.
Quelques mots sur la Lorraine. Donc 4 départements. 2 assez rurales, les Vosges et la Meuse, et puis Meurthe-et-Moselle, Moselle. La Moselle étant transfrontalière avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Donc des associations développées sur Metz, Contact et Couleur Gay, la PGL il y a quelques années, sur Nancy du Monde, avec l'inter-LGBT, avec Equinox Lorraine Sud. Un certain nombre, je ne les connais pas toutes, d'associations qui sont montées en maison LGBT qu'on appelle le creuji, j'arrive pas à le dire ce truc, ça veut dire le creuser, je crois, non, ou le fou, oui, je crois que c'est ça. Donc ça existe depuis 2 ans maintenant, cette maison LGBT, sur Nancy. Alors, au niveau des actions en Moselle, on va dire, parce que moi je suis sur Metz, donc on s'inscrit dans un tissu associatif qui est quand même assez ancien et qui bosse volontiers en partenariat et qui se retrouve chaque année, enfin pour ce qui est des associations de lutte contre les discriminations, qui se retrouvent chaque année au mois de novembre, pendant tout le mois de novembre, sur le novembre de l'égalité. Donc ça c'est, on va dire, la vitrine, enfin disons, mais en tout cas c'est le fruit et le produit d'un travail régulier entre les associations, qu'elles soient LGBT ou pas d'ailleurs. Le projet sur Metz, ce serait un petit peu à l'instar de Toulouse qui a une maison de l'égalité, je crois. Ce serait de faire quelque chose comme ça. On est en discussion actuellement avec les personnes de la politique de la ville sur Metz pour essayer de développer ce projet. Et donc dans cette maison de l'égalité, on trouverait évidemment les associations de lutte contre les discriminations qui sont volontaires pour ce projet, dont les associations LGBT. Alors le problème c'est la couverture rurale, hein, parce qu'on ne peut pas se démultiplier évidemment, hein, on est soumis aux mêmes contraintes que vous tous et toutes ici, pas assez de bénévoles, des gens qui travaillent, etc. Donc ben, on essaie de trouver des relais comme on peut, pour les Vosges et la Meuse. On suit notre petit bonhomme de chemin et on avance. Après, des contacts avec le rectorat qui n'étaient pas forcément très très satisfaisants. Pas encore vraiment de contact avec la région. Enfin voilà, bon, on essaie en tout cas de trouver des interlocuteurs pour pouvoir développer les projets. En tout cas, sur Metz, on est subventionné sur nos projets, ça change chaque année, puisqu'on nous demande de présenter un projet, donc on est subventionné par rapport à ça. Globalement, on est suivi. À Metz, donc c'est Monsieur Gros qui est un maire de Cato de gauche, donc il a un souci avec la PMA et la GPA, donc dès qu'on parle d'homoparentalité, etc., c'est un petit peu compliqué, mais on insiste. Voilà. Et donc on essaie de trouver des biais pour parler avec la chargée de mission parentalité de la ville de Metz, par exemple. Enfin voilà, on trouve des biais. Ensuite, ben voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Gérard, tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, plutôt contexte histoire LGBT. Donc, en regardant ce qui se passe en France, on sait Gérard, San Francisco, oui. Alors, ce qui se passe en France, bon, il y a, moi je vois qu'il y a un intérêt croissant pour le thème de l'histoire LGBT. On voit des bouquins qui sortent depuis quelques années, de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants à la fac qui font des recherches approfondies, qui préparent des thèses de doctorat. On voit dans les associations des animations culturelles, des expos. Donc ça veut dire que ça commence à se montrer de manière dynamique en France en même temps. Il y a des obstacles, et notamment qu'il n'existe pas encore un grand centre d'archives LGBT de portée nationale en France. Ça fait plus que 30 ans qu'on parle de telles initiatives. J'ai débarqué en France pour la première fois en 82, et déjà à l'époque, il y avait une initiative de centre d'archives LGBT. Alors là, ça pose un problème surtout pour les étudiants et les étudiantes, parce que s'il n'existe pas des ressources archivistiques, c'est difficile à proposer un projet de thèse, parce qu'il faut démontrer qu'il existe des documents pour faire les recherches. Également, on peut dire que les bibliothèques patrimoniales en France commencent à peine à s'intéresser à cette thématique-là. Heureusement, par exemple, les archives nationales ont pris les archives d'ACT UP, notamment. Mais c'est qu'un début par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, les États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Bon, on peut maintenant constater l'existence de quelques initiatives, et notamment le point G à la bibliothèque publique municipale de Lyon, qui existe depuis quelques années déjà. Donc c'est un centre d'études sur le genre et les questions LGBT avec la collection de Michel Chomara. Donc, c'est la seule collection LGBT dans une bibliothèque publique en France. Ou bien à Marseille, à la Fondation pour la mémoire des sexualités, tenue par Christian Deleuze depuis des années, où elle a constitué, mais vraiment, un fonds d'archives extraordinaire sur la région PACA. Et puis, pour terminer, si je peux exprimer un vœu, c'est que chaque association, soit à Paris, soit dans les régions, tâchent de sauvegarder leurs propres archives et éventuellement les mettre à disposition des chercheurs. Et dans la mesure du possible, de penser commencer à constituer des archives plus larges sur l'histoire de leur région, voire à recueillir des témoignages oraux, d'entretien d'histoire orale. Et donc, surtout parce que pour les historiens, les historiennes, ce qui se passe en région, c'est souvent les initiatives les plus intéressantes, sont les villes les plus intéressantes. C'est là où on crée une véritable culture de résistance, de différence, de possibilités. Bon, en France, on a l'habitude de regarder ce qui se passe à Paris. Bon, c'est intéressant, mais pour moi, c'est plus intéressant de voir ce qui se passe en région rurale, par exemple. C'est là où il y a des choses vraiment originales à constater du côté d'héritage, de patrimoine, d'histoire. Et donc, à nous tous, à vous tous, de commencer à faire ce travail-là pour faire en sorte que cette histoire soit sauvegardée et transmise à des générations à venir. Et voilà.
Peut-être dans la prochaine atelier, je pourrais vous préciser comment commencer une archive, parce que, par exemple, je ne saurais même pas quoi faire avec les notes.
J'aimerais un petit peu parler. Je trouve qu'il y a un déficit en France de gens qui pensent qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des choses intéressantes, qu'avant Stonewall, rien n'existait. J'ai participé à l'encyclopédie des cultures gays de Eric Bon, et je l'avais appelé l'encyclopédie de l'inculture gay. Et je me rappelle avoir, par exemple, j'ai fait l'article sur Alfred Jarry, et Eric Bon était persuadé qu'Alfred Jarry était un hétérosexuel homophobe, alors que en 1900, il revendiquait son homosexualité, il la revendiquait dans des livres, etc., etc. Et là, je dis, ben, les LGBT, c'est ceux qui connaissent le moins l'histoire LGBT. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, il y a un livre, par exemple, je sais, c'est pas un grand auteur d'extrême gauche, c'est le livre de Philippe Erlanger sur Monsieur Frère du Roi, donc le frère de Louis XIV, où il y a, alors là, on est vraiment dans l'histoire de l'homosexualité. sexualité dans l'aristocratie française au XVIe siècle, on apprend par exemple que Louis XIV signait les pactes de réconciliation entre son frère, monsieur frère du roi, et son fouteur, le chevalier de Lorraine, et c'était le roi qui co-signait les pactes de... Et moi j'ai dit, oui, c'est les ancêtres du pacte, voilà. Mais voilà, je suis souvent frappée de l'inculture des militants LGBT sur leur propre histoire. Je sais pas à quoi ça tient. Et non, mais par exemple, non, mais alors, je t'ai parlé alors c'est maintenant aux Archives nationales. Il y a un critique de théâtre, dont j'ai plus le nom, qui était passionné par l'histoire de travestis. Et il y a tout un fond de lui, alors qui était à l'Arsenal avant, qui est maintenant à la Nationale, dont une série de photos faites pour le bal de Magic City, le grand bal des homos dans les années 30. C'est formidable. Il faudrait aussi quelqu'un qui essaye de repérer d'une bibliothèque à l'autre ce qu'on peut trouver, parce que c'est pas vrai qu'il n'existe pas rien. Il existe énormément de choses, mais c'est éparpillé. Et là, il y aurait peut-être un travail à faire, plutôt que de traduire le dernier mail de l'université américaine pour voir ce qui existe ici, même si, bon, j'ai évidemment rien contre les universités. Université américaine.
Recensement et collecte.
Oui, voilà. Oui, oui. Des sources. Et puis ça peut être aussi les peintres, ça peut être les peintresses.
Si tu voulais répondre ou non.
Ah, Hélène Azera. Ou Hélène tout court.
Il faut juste garder en tête que si on parle comme ça, ça capte pas.
Oui, oui. Gérard de San Francisco, juste pour vous dire sur ce qu'elle en a dit, c'est vrai qu'il y a une culture, mais il faut constater quelles sont les raisons. Et c'est que l'éducation nationale ne s'occupe pas de cette question-là, mais où est-ce qu'on apprend l'histoire? Dans la famille, des grands-parents, des parents, donc bon, ça ne fonctionne pas pour les LGBT, n'est-ce pas? Bon, à l'école, bon, ça ne fonctionne pas pour les LGBT. Dans les musées nationaux, mais ça ne fonctionne pas pour les LGBT. Les monuments historiques publics, machin, les lieux de mémoire, etc. Alors, c'est toutes ces structures qui font en sorte qu'il y a une histoire, une transmission de mémoire chez les hétéros et les cisgenres. Ces éléments, ces structures, ces institutions-là ne sont pas là pour nous, et donc c'est à nous, en tant que militants, de commencer à demander le soutien, les subventions, la mise en place de ces structures-là, de les constituer nous-mêmes, mais également de demander auprès de l'État et des grandes institutions de s'occuper de cette histoire qui c'est, oui, c'est notre histoire, mais c'est également l'histoire qui appartient à tout le monde, mais il y avait toujours des hétéros et des cisgenres à nos côtés, soit en tant que bourreau, soit en tant que Camille ou de supporters, et donc ça fait partie de la République qui manque à nous, mais à l'ensemble de la société, et donc moi, je ne culpabilise pas du tout, nous, les LGBT, si on est inculte sur ces questions-là, ça s'explique à travers la manque de ressources et de structures. C'est à nous de demander que ce soit mis en place. Quoi.
Bon, maintenant que tout le monde a eu la chance, l'opportunité pour s'exprimer, on peut juste faire un peu de discours, débat libre. Moi, j'ai pensé à deux trucs auxquels j'ai oublié quand je parlais de mon contexte, tellement j'étais stressée pour montrer bien. J'ai pensé à travers de vos interventions. Donc d'abord, au niveau acteur local, on parlait de l'importance de créer un réseau, par exemple en région PACA, mais les difficultés de manque de cohésion entre les assos ou les conflits et tout. C'est vrai qu'en région rurale, enfin, c'est quelque chose où on est vachement confronté. C'est que nous, par exemple, à Rodez, on fait beaucoup d'actions avec le planning familial. Donc, en fait, on dit les gays et les féministes, on est ensemble, quoi, parce que à travers les actions de planning familial, on peut s'intégrer en fait aux interventions scolaires. On n'a pas d'accès sinon parce qu'on n'a pas le, comment ça s'appelle, l'agrément éducation nationale. Donc heureusement on a quelques MJC qui nous contactent pour faire les trucs en Parisco, c'est génial parce qu'on a une bonne réputation, on est crédible, mais on n'a pas l'agrément. Donc sinon voilà, c'est que les MFR, ça c'est cool aussi, c'est une bonne piste. Les écoles agricoles, parce que c'est le ministère de l'Agriculture. Donc nous, on est vraiment dépendantes sur ça. Après, il y a le côté un peu négatif, c'est qu'on avait en tête de peut-être monter un pôle sexualité, c'est-à-dire un local partagé, planning familial et LGBT, parce que nous n'avons pas de local, en fait, on n'a pas de permanence, on n'a pas de lieu. Mais la problématique, c'est est-ce que ça va faire amalgame pour les subventions? Est-ce qu'on va dire, bah, on est donné aux féministes cette année, donc on n'en pas. Est-ce que ça va nous poser des problèmes? Bon, ça c'est donc un de nos problématiques en région rurale. Et puis après, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la technologie. Parce qu'on se trouve donc dans un contexte de ruralité où, si on ne communique pas par rapport à nos événements, personne n'en sait. Et donc, grâce aux smartphones, Facebook, Grindr, email, newsletter, site internet, en fait, on a tous ces moyens de communiquer, mais ça nous oblige aussi de détacher un bénévole pour s'en occuper uniquement de ça. Et je me demandais comment les autres... quels sont vos constats par rapport à ça? Parce que, par exemple, moi, je me trouve inondée par... il faut le mettre dans le newsletter, sinon les personnes sans Facebook ne le reçoivent pas. Il faut le mettre sur Facebook, sinon les personnes sans newsletter ne le reçoivent pas. En fait, c'est juste 50 trucs à mettre à jour pour un événement, et je ne sais pas comment... ça m'intrigue, en fait, le contexte de la technologie dans le quotidien de la vie LGBT. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire.
C'est une question, Antonin, de la Fédération LGBT, c'est une question qu'on se pose aussi pas mal à la Fédération LGBT, parce qu'on a à nouveau des disparités très fortes entre nos différentes associations membres, qui s'explique tout simplement par la constitution des conseils d'administration dans chaque ville, c'est-à-dire qu'une ville où il va y avoir... peut-être plus de jeunes, plus à l'aise avec les outils informatiques et plus au fait des dernières tendances de communication numérique, va faire que forcément elle va axer sa communication, ses actions beaucoup plus sur des choses qui parlent du coup des jeunes. Et que des associations, on a des militants avec une moyenne d'âge un peu plus élevée. C'est une généralité, hein, c'est pas vrai tout le temps. On voit a du mal à prendre le virage du numérique. Et du coup, il y a des super initiatives qui sont pas relayées. Donc on se pose vraiment la question à la FEDE. Nous, ce qui a un peu aidé, là, c'est l'apport de 109 OCA avec des jeunes qui s'y connaissent bien en communication numérique, donc graphistes, informaticiens. Donc ça aide. Par contre, on n'a pas résolu le problème du temps que ça demande. Parce qu'on ne peut pas avoir un community manager qui est là toute la journée à surveiller les réseaux sociaux, animer, répondre, relayer. Parce qu'on n'a pas les moyens humains, donc on les met sur d'autres choses quand on en a. Et en local, du coup, les associations, s'appuyer, ce qu'on voit dans nos assos membres, c'est que s'appuyer du coup sur une personne qui est bien à l'aise, mais c'est bien, mais ça nécessite aussi qu'elle soit formée de façon tip-top, à la fois sur les questions théoriques, mais aussi sur l'écoute, la communication bienveillante. Parce que toute l'image maintenant d'une asso va passer des fois par un seul tweet, il suffit qu'il y ait un tweet de travers et ça s'envenime hyper vite. C'est des choses qu'on avait moins parce que les temps de communication étaient plus longs avant. Maintenant on a une immédiateté qui fait que chaque mot doit être pesé et que derrière, enfin, on rame des fois pour rattraper une broutille. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de bénévoles disponibles et formés qui cumulent toutes ces capacités, nous on n'a pas de réponse. En tout cas, voilà. Mais donc même constat.
C'est comme tu dis, Amanda, Rhodes, on a vécu un peu la même chose. C'est non seulement les personnes avec un moyen d'âge un peu plus élevé, dont même Rhodes, qui veut que je les appelle pour chaque événement, parce qu'ils n'ont pas d'internet, ou il veut que je les envoie un courrier.
Là, c'est la structure technologique. Ouais. Hein,
donc il y a plusieurs personnes. Oui, il y a plusieurs personnes. Et deuxième, c'est comme tu dis, on est censé être instantané, c'est-à-dire de réagir, mais il faut bien penser à ce qu'on va dire d'abord. Parce qu'on a aussi le problématique où un membre qui a eu le contrôle du groupe Facebook a mis ses opinions personnelles. Beaucoup de choses contre l'Église, contre ça, même si on le dit entre nous, on parle public, quoi, merde. Enfin, il faut réfléchir, il faut prendre la parole pour l'assaut, et pas juste à titre perso, parce qu'on a le droit de tweeter tout ce qu'on veut. Et je ne sais pas si d'autres assauts ont vécu des choses similaires face à la technologie.
Mais quand on déborde, on trouve toujours ça très bien. Hein. C'est quand les autres débordent qu'on n'est pas content.
Certaines qui débordent jamais. Hein.
Ouais. Mais c'est sur autre chose.
Oh bah vas-y. Hein. C'est ouvert, quoi. Open mic.
Alexis, collectif éducation. Comment revenir sur le sujet du coup? Enfin sur ce que je voulais dire. Par rapport aux situations de discrimination dans dans l'éducation nationale, donc que ce soit vécu par les personnels ou vécu par les élèves, si on regarde les chiffres, les chiffres sont tirés des études des SOS homophobie essentiellement, mais sinon, enfin, on n'a pas grand-chose. Donc, ce que vont dire les parquets ou autre chose, c'est qu'il existe très peu de discrimination LGBT-phobe à l'école, ce qui est évidemment pas le cas. Le problème est qu'on n'en parle pas. C'est ce que je disais en première partie. Il ne faut pas en parler ou on n'ose pas en parler. Enfin, il y a toute une chape de plomb. Nous concernant, en tant que représentants d'enseignants, associations, de parents d'élèves, etc., c'est que quand on en parle, et ça sera peut-être aussi le moyen d'en parler cet après-midi, nous, entre nous, quand on en parle, les enseignants, élèves ou autres se tournent vers les associations. Donc, souvent, nous, on ne le sait pas. En tant qu'enseignant, représentant d'enseignant, on ne sait pas qu'un enseignant s'est tourné vers une association parce qu'il a subi une situation de discrimination. Donc c'est peut-être là aussi, en termes de contexte, un travail ensemble qui pourrait se faire. Donc, quand on le sait, on accompagne. Ça arrive assez régulièrement. Et puis il y a l'étape suivante en termes de contexte, c'est que on en a parlé, on a accompagné, on a réglé le problème entre guillemets par une mutation. C'est la plupart des cas. C'est la plupart des cas. Ça se passe mieux dans notre établissement et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'il faut surtout, nous, on va faire un article, on va médiatiser, on a résolu une situation. Tu peux porter plainte. Non, voilà, on n'en parle plus. C'est fait. Donc la chape de plomb se réinstalle. Donc du coup, il n'y a aucune possibilité de faire une sorte d'effet boule de neige pour que les autres enseignants ou personnels ou élèves en situation de discrimination sortent un petit peu de leur isolement, quoi. Et du coup, et ça, c'est encore plus, évidemment, c'est dans tout le monde éducatif, mais encore plus prégnant dans l'enseignement privé confessionnel, où il faut encore moins en parler. Ce qui est assez dommage, c'est que les gens le savent. Si je prends mon cas personnel, j'ai des collègues qui sont retournés dans mon ancien établissement, j'ai jamais parlé de mon orientation sexuelle, mais ils ont dit « Ah oui, il a muté pour rejoindre son copain ». J'en ai jamais dit à personne, quoi. Donc ils le savent, mais le problème c'est qu'il faut tellement pas en parler que cette chape... C'est vrai en plus, alors je ne sais pas comment ils ont pu, comment ils ont pu savoir.
Donc c'est pas des calomnies au moins.
Non, non. Au moins, c'est pas une calomnie. Non, ça serait pas dramatique, mais voilà, ce qui fait qu'il y a cette situation qui est compliquée, cette omerta, qui fait que s'il y avait ce travail entre les associations, les syndicats, les associations de parents d'élèves, etc., sur le terrain comme au niveau national, c'est peut-être qu'on sortirait de cette...
Quels sont vos rapports avec les associations identiques de l'école publique? J'imagine que vous parlez un petit peu entre ceux du privé et ceux de l'école publique.
C'est le principe du collectif, en fait. Le collectif, c'est un regroupement d'organisations, syndicats, parents d'élèves et d'organisations de lycéens et d'étudiants, public-privé.
Ah, okay.
Moi je représente le privé, mais il y a le collègue de la CGT, FERC-CGT, donc public-privé. On travaille ensemble.
C'est bien de savoir qu'il y a deux groupes LGBT qui travaillent ensemble.
Mais en l'occurrence, nous on est des représentants d'enseignants, de parents d'élèves, etc. qui sommes dans nos structures hors questionnement LGBT. C'est-à-dire qu'on a été missionnés par nos structures pour aborder ce sujet. Alors c'est déjà trouver une intersyndicale, interassociative qui travaille ensemble sans réelle friction depuis 12 ans. C'est très très rare. C'est très rare. Donc du coup, mais il y a un consensus à trouver qui est parfois compliqué. Mais après, on n'a pas le lien. Alors pour la journée du 13 mai, on a travaillé avec Contact, SOS Homophobie, Estime, 6 associations, tout le collectif plus. C'est possible. Mais au niveau local, on en a eu une démonstration là. N'étant pas du tout engagé dans les mouvements LGBT au niveau local, personnellement, je les connais de nom, les associations, mais je ne sais pas quel est le lien entre ces associations et le milieu éducatif public comme privé. Privé, j'ai aucune remontée. Hein. Au niveau local, on ne sait pas. Quoi.
Bah d'abord, pour préciser, le 13 mai, c'est la journée de lutte contre les discriminations. Donc, ça, c'est... Le 17, c'est contre l'homophobie.
C'était un dimanche, le 17 mai l'année dernière. Donc, du coup, on l'a fait le 13 mai pour que ça aille avec l'hiver scolaire.
Mm-hmm. J'ai une question, en fait, parce que ça m'intrigue. Quand tu parles de la silence au sujet des discriminations, est-ce que dans l'enseignement, public et privé, est-ce que c'est uniquement au questionnement de la sexualité, l'orientation sexuelle et identité de genre, ou est-ce que c'est toute discrimination? Est-ce que vous sensibilisez par exemple les enfants par rapport au racisme et pas les discriminations sexuelles et affectives?
C'est pas binaire, monolithique, hein. C'est dans les textes, que ce soit dans les programmes, il y a beaucoup plus de place aux autres discriminations qu'aux discriminations LGBT-phobes. Mais on peut choisir de traiter ce sujet. Après, ça fait partie de la liberté pédagogique de l'enseignant. Voilà. Donc, du coup, on se doute que en dehors des enseignants engagés sur le sujet, on ne choisit pas. Quoi. Les structures scolaires ont des discriminations privilégiées, les discriminations liées au handicap. On traite énormément. Discrimination raciale, ethnique, on traite aussi beaucoup. Ces deux thématiques-là, encore plus dans l'enseignement privé, parce que ça fait charité. C'est facile d'accès. S'il y a un silence, c'est parce que les textes, les orientations liées aux différentes matières ne traitent pas des questions LGBT, traitent peu. Le politique ne traite peu, il y a une question sociétale, etc. Quoi. C'est un ensemble de raisons. Le dernier exemple en date, c'est la création de l'EMC, l'enseignement moral et citoyen et civique, où on est allé au CSP pour essayer d'introduire la lutte contre les LGBT-phobies aux places où c'était possible. On a fait une vingtaine, trentaine d'amendements, ils ont tous été rejetés. Il fallait. Alors parce que quand on parle de discrimination, il ne faut surtout pas les. Il y en a 12, il y a 12 critères de discrimination. Donc du coup, il ne faut surtout pas les prendre les uns après les autres, sauf qu'ils prennent le racisme, sauf qu'ils prennent la discrimination liée au handicap. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais le silence, il est présent pour une différence de raison. Diversité de raison.
Faire deux exemples, j'aimerais là-dessous, parce qu'on suit aussi des cas individuels. On a eu un cas de quelqu'un qui était responsable d'un pastoral dans un lycée à Rennes, je crois, qui, bon, en gros, il a été licencié parce qu'il était homo, mais évidemment, personne ne l'a jamais dit. Donc après, c'est problématique, et lui-même, bon, au bout d'un moment, il nous a dit, ben non, je veux juste tourner la page, il s'est cassé à Bruxelles, point. et ça restait dans le cadre institutionnel classique. On a eu le cas d'une pasteur en Belgique qui donc a été reçu comme pasteur après ses études en théologie. Et là, il y avait des évangéliques purs et durs qui ont dit on ne la veut pas parce qu'elle est homosexuelle. Et donc l'avantage d'avoir paradoxalement des ailes très droitières, c'est qu'ils disent ce que les autres pensent. Voilà. Et effectivement, on a réussi à bloquer la chose. Bon, après, est-ce qu'il faut souhaiter qu'il y ait des ailes droitières? Je ne sais pas. Mais le problème, c'est comment amener à... Et c'est la même chose au niveau du travail, je veux dire.
Comment amener
à faire... comment amener à la lumière ce qui est caché, et donc comment amener à verbaliser le fait qu'une personne est discriminée en tant qu'homosexuelle, c'est pas du tout évident. Et je pense que tout le travail, c'est là, et c'est le fait de réussir à définir des critères. Moi, dans mon domaine professionnel, je vois très bien monter toute une série de bruits, de couloirs autour d'une personne et de ses incapacités professionnelles. Et ses incapacités professionnelles sont liées au fait qu'il est un homme, mais il est hystérique. Et bon, là, je vois très bien la pente qui est en train de se dessiner. Mais j'ai parlé avec lui, il considère que... Je veux dire, après, le problème, c'est que si les personnes... Plus on est concerné, moins on... Il y a un effet de perspective qui n'est pas en place, et donc il est tout à fait convaincu qu'il n'y a aucune discrimination qui est en train de se jouer contre lui.
Et c'est très difficile de se battre pour soi-même. C'est des fois plus facile. Nous, on a eu autour de nous l'histoire d'un garçon trans qui était militant dans une assoce. Et il avait passé un concours, il avait été le premier pour rentrer dans une école de formation de travailleurs sociaux. Et ils ont commencé à... Les professeurs ont fait un vote demandant qu'on l'appelle au féminin. Ça a vraiment été... Mais il n'est pas... Moi, je lui dis, mais attends, on se met devant ton école avec des pancartes et puis tu vas voir, ça, tu vas avoir ton rendez-vous. Et il n'avait pas envie d'histoires compliquées de professeurs qu'il avait soutenus, qu'il ne voulait pas mettre dans l'embarras. Mais ça retardait ses études d'un an. Hein. Donc, quand même. Alors moi, je voudrais parler d'une autre chose. Je ne sais pas si c'est le moment où on en parlait. C'est une petite porte que j'ai vue dans la question trans, puisque là, on parle des discriminations à l'intérieur du système éducatif, mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas dans le système éducatif, même si, je dis ça pour Antonin, en 40 ans, j'ai vu entièrement changer le paysage. Ce qui était impossible il y a 40 ans, maintenant, on commence à avoir des jeunes trans qui vont dans les écoles, etc. etc. Mais c'est une chose nouvelle. Reste qu'il y a des laissés pour compte, et particulièrement dans les milieux les plus précaires, ceux qui, par exemple, n'ont pas d'ordinateur pour communiquer. Acceptes a développé un partenariat avec l'Université Saint-Denis, et c'est sur le thème de la valorisation des acquis. Pour dire, voilà, vous avez fait 30 ans au Bois de Boulogne, vous avez appris des choses, donc on vous donne un diplôme. Je résume de façon un peu abrupte, mais c'est de considérer que c'est effectivement une expérience de vie et qu'en suivant des cours dans l'université, etc., on peut avoir un diplôme. Il y a une copine que j'ai suivie, elle s'est retrouvée infirmière psychiatrique à cause de ça, grâce à ça, et elle me dit dès qu'il y a un client à problème, c'est moi qu'on appelle. Donc ça marche plutôt. Donc cette histoire de valorisation des acquis, moi j'ai dit à Giovanna, mais attends, c'est énorme ce que tu viens de... Des fois elle ne se rend pas compte des trésors qu'elle défriche. Je lui ai dit, mais c'est vraiment un trésor, parce que même si ça se passe mieux et bien pour, pour certaines et pour certains, il y a encore, quand on est parti dans une transition, on peut lâcher très facilement le système scolaire, quoi. C'est une évidence. Et là, c'est une façon de rattraper les gens. Ça peut servir pour les toxicos, ça peut servir pour d'autres personnes. Donc, il faut savoir que ce truc existe et il va falloir se jeter dedans.
Ben oui, justement, moi j'ai pensé à ça l'autre jour. J'ai une copine transsexuelle qui fait sa transition. Bon, elle est sur la troisième année et ça va vachement mieux maintenant, mais le fait qu'elle n'ait pas lâché son boulot parce qu'elle est face aux élèves toute la journée et elle était donc dans une zone rurale où tout le monde acceptait. Tout le monde avait compris et tout, mais après elle a changé pour se rapprocher à nous un peu, à tout le monde. Et à son école, on l'appelle monsieur. Donc on n'a pas vraiment compris si c'est la transphobie, si c'est les... Bon, pour moi c'est la transphobie, mais bon, enfin, dès qu'on se présente tant que femme, je ne comprends pas pourquoi on s'appellera monsieur, mais bon. Donc ouais, c'est comment permettre à ces personnes, soit toxico, soit transsexuelles, soit même, on le voit dans d'autres pays, les filles, dès qu'elles ont leurs règles, elles ne peuvent plus assister à l'école, elles ne peuvent plus... comment on fait accepter les faits de la vie et permettre aux personnes de continuer dans leur vie et de ne pas lâcher prise, quoi. Ça, c'est très transversal, en fait, comme lutte, on voit les thématiques, comme tu dis. Hein.
Antonin, la Fédération LGBT, ça me fait mettre en résonance ce qu'on vit du coup dans toutes les associations qui font de l'accueil, de la prise en charge, de l'accompagnement des personnes. C'est que finalement le public le plus fréquent qu'on a besoin d'aider, c'est le public qui est en bout de course sur tous les circuits classiques en fait, de prise en charge des personnes. Donc c'est les personnes qui vont cumuler soit plusieurs discriminations, soit qui ne vont pas pouvoir trouver la solution dans ce qui existe déjà dans la société. Et souvent du coup les pouvoirs publics vont nous rétorquer, oui mais il existe déjà, voilà, il y a déjà des assistants sociaux, il y a déjà des médecins, il y a déjà plein de choses qui existent, sauf qu'on voit bien que nous, les publics qu'on accueille, ne peuvent pas rentrer dans ces cases-là, parce qu'en allant à l'hôpital, ils vont être discriminés, parce qu'ils n'ont pas de soutien familial, parce qu'ils ont été déscolarisés, parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'emploi à cause de leurs papiers, plein de choses comme ça. Et peut-être que finalement, la mission qu'on a, enfin on dit souvent à Rennes, on n'est ni assistants sociaux, ni curés, ni médecins, on a un petit peu tout ça. Et sans rire, je pense qu'on est... On a vraiment ce rôle de maintien du lien social et de prise en charge globale des personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas beaucoup en fait, dans le reste de la société.
Mm-hmm. Complètement.
Voilà. Et quand on voit que des gens viennent des fois dans les assos juste pour prendre un café parce qu'en fait, c'est le seul endroit où elles ont le sentiment qu'elles peuvent venir entières, avec toute leur histoire, c'est-à-dire des histoires de discrimination, mais aussi parfois une maladie mentale qui n'est pas non plus bien vécue. Dans le reste de la société, avec un problème d'emploi, avec plein de choses, ça fait réfléchir comment on tient toutes ces casquettes aussi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traite ici le problème justement handicap mental ou handicap physique et LGBT? Parce que de ce côté-là, il y a du boulot
énorme.
Aussi.
Énorme, énorme.
Bon, il nous reste une dizaine de minutes. Je propose qu'on passe à la synthèse. Synthèse collective, sauf s'il y a des dernières remarques.
Non.
Après, cet après-midi, juste pour rappel, la dernière session, c'est besoins, enjeux et valeurs. Qu'est-ce que ce diagnostic dit des besoins réels? Quelle vision prospective sur les enjeux futurs, sur ce thème? Quelle valeur guide notre approche? Donc c'est là où on va vraiment parler de l'avenir. Donc si vous avez des trucs à dire pour le présent, pour le passé. Non, okay. Bon, donc synthèse collective. Moi j'ai noté quelques thèmes, mais je vous laisse commencer. C'est mon merde.
Il y en a marre. Il y en a marre.
C'est où il a une compétence forte en
non, là.
Je reprends les notes, c'est très large.
Ouais, bah, j'ai noté que donc on avait tendance de parler soit par région, par contexte géographique, soit par contexte de sujet ou problématique en fait. Et par géographique, on a parlé de la Normandie, de l'Aveyron, France-Belgique, Île-de-France, Rennes, Marseille et Meuse-Moselle.
Voilà. Et pour par sujet ou problématique, entre guillemets, on a parlé donc ruralité, disponibilité bénévole, santé, donc drogue, VIH, protection, qu'est-ce qu'on avait dit, IST, lesbienne par exemple, transsexuel, on a parlé de cumul des circonstances.
On dit plutôt transidentitaire.
Transidentitaire, oui, c'est vrai.
Je sais pas, sur les histoires de mots, ça, tous les 10 ans, ça change. Et tout le monde s'entrégorge pour savoir quel mot non, employer. Mais
justement, tu as raison. Mais...
C'est bon.
13h30, où trouver le plateau repas en face des toilettes en bas. Et on va manger dans le couloir qui entoure la scène, mais pas sur la scène.
Ok,
bah, voilà. Tu okay. Vas nous envoyer une synthèse et
groupe mémoire. Oui, oui. Merci. Okay. Mais tu as raison, et justement, j'étais sensibilisée, donc c'est les vieux habitudes qui sortent. Donc les transidentitaires ont parlé donc de un peu de tout, équivalent ses diplômes en dernier, cumul des circonstances, maintien de lien social.
Les risques en cas de rigide, en cas d'un régime plus rigide. Que vont devenir les étrangères
risque,
et les risques
politiques ou politique, de droit
oui,
en fait.
Oui, risque de droit pour les étrangères en cas de rigidité du système politique.
Mm-hmm. Moi, je n'ai pas tout noté non plus. Donc n'hésitez pas à me donner les idées.
Et puis l'aspiration d'une loi pour l'aspiration de la loi. Ils ne veulent pas le mettre identité de genre, ils ont peur. L'identité de genre, ça...
Pour le changement d'état civil.
Le changement d'état, oui. Donc, de la loi pour les trans, je ne sais pas quel mot on peut...
Après, à ce sujet, il y a de grosses disparités de positionnement vis-à-vis de ce que
bah, ça, c'est bien qu'on discute, qu'on en discute entre nous et de façon non dogmatique. Moi, je suis très pragmatique, je préfère une mauvaise loi que pas de loi du tout, hein. C'est simple.
Très pragmatique, on préfère une condamnation de la France qu'une mauvaise loi qui verrouille.
Oui, sauf que quel va être le prochain régime politique? Ça veut dire une loi pour les trans en 2020, hein, en 2025, après une guerre civile.
Ouais. On était positif jusqu'à l'heure. Enfin, il y a eu des moments positifs.
Parce que justement, si j'ai bien compris, le clivage pour ces lois, c'est est-ce que ça couvre tous nos besoins ou est-ce que c'est, ça ne va pas assez loin? C'est ça un peu le débat au sein de la communauté.
Le texte est pathologisant et psychiatrisant et judiciarisant et c'est exactement ce que les pays qui commencent à sortir des lois ne font plus. Et on va se retrouver le dernier pays à avoir une loi pourrie pendant 50 ans.
Tu n'as pas eu le texte du comité secret démocratique secret, si, dont l'inter avec les remarques.
Ouais. Donc soit il y a des amendements excellents qui passent, soit voilà. On aura un texte pourri. La France va se prendre trois condamnations quand elle se gâche.
Encore. À moins que ce qu'on a vu
à moins
aussi. À moins on a vu le truc de l'Europe faire machine arrière sur une histoire avec des femmes sur la GPA.
Donc bon. Je continue juste, on finit vite. Donc je vais noter réseau, au sujet des réseaux, on parlait des réseaux qui marchent et les réseaux qui marchent un peu moins bien. Peut-être manque de cohésion, des conflits aussi. Et puis on a parlé d'une idée de division de tâches selon la problématique en réseau. C'est-à-dire quel asso gère quelle problématique vu qu'on a une communauté de plus en plus grande. On a parlé de la disparité des territoires, la question de la religion, la question scolaire, éducation, médiathèque, ressources, éducation nationale privée et lutte contre les discriminations. Et ensuite, il manque d'intérêt, enfin un ressenti d'un manque d'intérêt sur l'LGBT, la vie LGBT française. Et plus on va regarder vers les États-Unis, qu'est-ce qui se passe, mais en réalité, besoin de se ressourcer ici d'abord. J'ai noté comment... Ah oui, et puis tout ce qu'on a parlé sur la nature de la technologie et son rôle dans le militantisme LGBT, la face est cachée, la discrimination, comment faire dire aux gens qu'ils discriminent, et aussi comment aider les personnes à se battre pour soi-même.
Sur la technologie, il faut dire les précaires exclus de la... Oui. Les précaires et les vieux exclus de la technologie.
Oui,
qui,
j'ajoute.
Tout d'un coup, se retrouve extérieur au débat. Bon, moi, ACT UP, tant que j'avais pas... je n'étais pas équipé internet et ordinateur et tout ça, je trouve ça honteux que, mais dès que je l'ai...
ça... pareil que tous les autres. Voilà. En effet, je pense que sur cette question du numérique, le problème c'est qu'on risque de... Alors, les réseaux, les moyens de diffusion se multipliant, ça devient une course à la dernière trouvaille. Oui. Et le problème, c'est vraiment celui à un moment de choisir.
Oui. Oui. Comment choisir?
Oui. Oui,
entre Twitter, Instagram, Facebook, etc.
Et Scoop, et ceci et cela.
Moi, je vais faire une petite leçon d'histoire. J'ai lu un livre où on explique comment Staline a pris le pouvoir parce qu'il avait fait... installer un truc téléphonique qui reliait toutes les personnes du Politburo et qu'il était capable d'écouter toutes les conversations. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention, c'est que la personne spécialiste techniquement ne prenne pas le pouvoir et se l'arrange. On a eu une histoire sur la liste existence où la personne qui avait installé la ligne d'échange a viré deux personnes, dont moi, des échanges internet sans qu'il y ait le moindre vote entre nous. Bon, j'ai été réinstallé quelques jours après, mais il faut faire attention. Moi, j'ai toujours un peu peur des spécialistes, je dois dire.
Super. Bah, c'est tout ce que j'ai noté. Donc...
C'est bien. Parfait.
Bah oui. Ah. Bravo. Merci. Et merci de votre participation.